l'avenir du RSS ou bien est-ce que le RSS a toujours un avenir? Mon nom est Sylvain Grandmaison et vous écoutez Le Québec en balado-diffusion version Espresso numéro 1. Pourquoi version espresso? Ben parce que c'est un podcast court où est-ce qu'il y aura un seul sujet dont je parlerai. Et bien, ça risque de me permettre peut-être d'en faire à l'occasion un peu plus souvent. Mais je ne promets rien, encore une fois. Ben bonjour, hey, ça fait pas longtemps que j'ai parlé dans vos oreilles et ça me fait plaisir de recommencer l'expérience encore une fois. Cette fois-ci, j'enregistre avec un studio très mobile. En fait, j'enregistre pas de la région de Montréal aujourd'hui, j'enregistre de la région de Chicoutimi où je suis pour une réunion pour un projet hyper, hyper intéressant qui fera appel à la réalité augmentée. Bref, je vous en reparlerai peut-être lorsque ça aura lieu. Mon setup d'enregistrement aujourd'hui, j'ai reçu mon petit bidule Tascam IXZ. C'est la première fois vraiment que j'enregistre avec. J'ai fait des tests, mais c'est la première fois que j'enregistre. Et j'ai pas mon micro habituel, j'ai un micro plus portable. C'est un micro Audio Technica qui fait quand même une assez bonne job. J'ai aussi des micros Shure, comme ça, des micros dynamiques. Mais celui-là, c'est mon préféré. C'est celui, je pense, qui convient le mieux à ma voix aussi. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler simplement du RSS. Mais avant toute chose, il y en a un, bien sûr. Aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick. Et puis, ça me fait plaisir d'avoir un carburant de la semaine. Bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est une Irish Stout, mais j'ai pas pris la traditionnelle Guinness, non, c'est une O'Hara's Irish Stout. J'en verse un petit peu. Oui, c'est noir comme du pétrole, ça fait pas tant de mousse que ça. Évidemment, il y a des notes de caramel, tout ça. Oh, il y a beaucoup de malt fumé là-dedans. C'est très... c'est plein de corps. C'est pas si alcoolisé que ça. 4,3, ça fait 500 millilitres. Et puis, bien, je vais passer outre la description, mais ça me fait plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui en ce jour de Saint-Patrick. Bref, le RSS, de que c'est, où est-ce que ça s'en va, tout ça... Je peux pas dire que j'ai une vision très précise de qu'est-ce qui va arriver avec le RSS, mais je ne crois pas que ça va nécessairement disparaître dans un avenir très rapproché. On parle des fois quand on fabrique des produits d'obsolescence planifiée. Dans ce cas-ci, je parlerai plus d'obsolescence imposée dans le cas de chez Google, puis je vais vous en parler tantôt. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Le RSS, c'est quoi? Ça porte différents noms. On parlait à l'origine de Rich Site Summary ou de Real Simple Syndication. Ça a été lancé officiellement en 1999 par Netscape. Ça a été officiellement abandonné par eux en 2001 lors de la restructuration, lors du rachat par AOL. Donc, il y a plusieurs groupes qui ont poussé le développement à partir de l'an 2000, dont Dave Winer, grand homme de techno et programmeur américain. Et je vous en ai déjà parlé à la suggestion d'Adam Curry, un ancien VJ de Much Music et d'autres utilisateurs. Ben, Winer a réussi en 2001 à créer des enclosures qu'on appelle, c'est-à-dire d'imbriquer des fichiers médias dans un fil RSS. Donc, il a créé officiellement le podcasting en 2001, mais ça ne s'est pas développé vraiment au départ. Ça a vraiment explosé en 2004 avec les agrégateurs audio grand public, les plateformes de publication de blogs comme WordPress et autres, et les services d'hébergement comme Libsyn. Donc, c'est vraiment là que ça a démarré en 2004. Et ben c'est là aussi que Adam Curry a commencé à faire son émission, qui a fait la couverture du magazine Wired. Et le reste, ben c'est l'histoire du podcasting, ma foi. Mais le RSS, c'est bien plus que ça, c'est pas juste le podcasting. Le RSS, ça sert à la publication, ça sert à la distribution, mais aussi à l'agrégation de contenu pour une grande quantité de sites. Donc, on parle des blogs, évidemment, mais on parle aussi des sites de médias qui publient ou agrègent du contenu et republient ce même contenu-là provenant de différentes sources. Donc, Radio-Canada pourrait automatiser, ils le font peut-être pour certains films, automatiser la republication de fils de presse, d'organes de presse associés. Donc, c'est très pratique, vous pouvez vous imaginer, ça simplifie la vie, étant donné que c'est très léger, qu'il y a juste les balises de base pour l'information. Bref, c'est extrêmement léger, extrêmement rapide. Même Twitter est disponible sous forme RSS. Auparavant, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, bon, il faut faire une petite recherche Google pour trouver comment, mais c'est très simple. On copie cette adresse-là et on fait juste changer le nom d'usager à la fin et on a accès à tout ça. D'ailleurs, c'est beaucoup ce qui a permis à Twitter d'être très léger à opérer au départ, de tourner avec une plateforme qui générait du RSS. Donc, il y a eu une vague d'agrégateurs. Un agrégateur, c'est quoi? Ben, c'est un outil qui nous sert à aller chercher tout ce contenu-là et à le centraliser à un seul endroit. Donc, la plupart des agrégateurs à l'époque étaient sous forme d'applications dédiées, donc une application qu'on installait vraiment sur notre ordinateur et après ça, bien évidemment, sur notre téléphone intelligent ou sur notre tablette. Mon préféré s'appelait comment? S'appelait NetNewsWire. Il ressemble un peu à un logiciel de mail, le logiciel de mail de Apple d'ailleurs. Donc, c'est représenté de la même façon, sous forme un peu de message ou sous forme de boîte aux lettres. Et puis, bien, on voit combien il y a de nouveaux textes qui ont été publiés. Donc, je m'en servais surtout pour suivre des blogs, les fils d'infos technologiques, des nouvelles ou autre chose du genre. Je m'en ai beaucoup, beaucoup servi quand on animait le podcast de Mac Québec pour suivre toutes les informations hot de l'heure. Mais je l'ai délaissé au fil du temps, étant donné que, bon, j'animais plus Mac Québec, au profit de Google Reader. J'ai toujours utilisé quand même Google Reader, mais pas nécessairement pour suivre les blogs. Je m'en servais pour d'autres utilités, mais au fil du temps, j'ai complètement fusionné tout ça. Donc, je me sers des Google Alerts et pour pouvoir faire de la veille. Donc, j'ai des alertes pour tout ce qui est dit sur Twitter, des alertes par mots-clés pour ce qui est publié dans les sites web, dans les blogs et autres. Donc, c'est une façon simple et gratuite de monitorer pour moi les médias sociaux sans utiliser un outil coûteux ou bien sans simplement utiliser un autre outil que ce que j'utilise déjà. Donc, en centralisant tout dans Google Reader, c'est extrêmement pratique. J'y vais le matin, je regarde, je scanne rapidement ce qui m'intéresse et très rapidement, mais je fais le tour des sujets qui m'intéressent, des blogs qui m'intéressent, des fils de nouvelles qui m'intéressent, mais aussi des sujets que je surveille sur le web. Mais le grand problème en ce moment, c'est que Google semble abandonner le RSS, pas en totalité, mais en partie. Donc, dans un premier temps, je vous en ai parlé aussi par le passé, Google a abandonné le développement de FeedBurner. Donc, FeedBurner, c'est quoi? C'est un outil de normalisation de feed, de fil RSS. Ça dit aussi, en plus de normaliser le fil RSS pour qu'il soit complètement compatible, ça dit combien de gens sollicitent ce fil RSS-là à chaque jour. Donc, on ne sait pas le nombre total d'abonnés. On ne le sait jamais à l'autre bout si les gens sont toujours abonnés. Mais on sait quand même combien il y a d'abonnés qui sollicitent le fil RSS. Moi, j'ai calculé plus ou moins, selon mes observations par rapport au podcasting, que selon les gens qui sollicitent le fil RSS, il y a environ entre 3 et 5 fois plus d'abonnés que de gens qui sollicitent le fil RSS. Donc, ça fait quand même beaucoup, mais ça nous donne une bonne idée de combien de gens le font. Ça permet aussi des abonnements par email. Donc, à la place de faire appel à un service tiers, ben, on se sert de Feedburner pour redistribuer aux gens qui s'abonnent par courriel à notre fil RSS ou à notre podcast, tout simplement. Ça permet aussi, Feedburner, de créer des sites de podcast, créer des podcasts à partir de sites qui n'ont pas nécessairement le fil RSS de façon native. Donc, des sites qui n'ont pas cette fonctionnalité-là, on peut quand même forcer Feedburner puis dire à chaque fois qu'il y a un fichier MP3, un fichier média, vois-le comme un podcast et redistribue-le comme un podcast. Donc, ça nous permet d'envoyer ce fil RSS-là à iTunes et iTunes ne fait aucune différence, voit tout simplement ça comme un podcast. Donc, c'est un outil très pratique, sauf que Google a abandonné le développement et aussi ils ont fermé le blog qui se rapportait à ce service-là. Heureusement, le service existe toujours. Il est toujours très utile, fonctionne toujours très bien, mais on sent qu'il y a quand même un compte à rebours qui est là. Moi, personnellement, j'ai certains clients en podcasting avec qui je publie sous Feedburner pour donner l'information à iTunes. La raison est très simple, c'est que la programmation change presque à chaque année, mais c'est toujours le même type d'émission. Si, par exemple, on a une émission du matin, à un moment donné, après un an, deux ans, cinq ans, les animateurs changent ou le titre d'émission change ou le format de l'émission change pour quelque chose d'autre, ben, on n'a pas à fermer totalement ce fil-là. Tout ce qu'on fait à l'aide de Feedburner, c'est qu'on donne la nouvelle information et ça reste le même fil RSS. Donc, on conserve les abonnés. C'est extrêmement pratique. Sauf que je me pose la question en ce moment, est-ce que je devrait continuer à faire ça. J'informe toujours mes clients qu'il y a un risque, mais malheureusement, c'est un très bon outil. Malheureusement, on ne sait pas ce qui va arriver avec. Donc, on ne sait pas si ça sera abandonné, mais la chose qu'on a appris récemment et qu'on sait officiellement, c'est que Google abandonnera Google Reader. Donc, Google Reader, son agrégateur, l'agrégateur RSS le plus utilisé au monde, celui qui, comme on dit, drive beaucoup, beaucoup de trafic, mais ils vont l'abandonner complètement à partir du 1er juillet. C'est pas qu'on abandonne le développement comme pour Feedburner, non. On tue carrément le service, on le ferme, peu importe s'il y a des gens qui s'en servent encore, c'est fini. Ce qui est un peu bizarre, c'est que ça coûte presque rien à maintenir. Ce n'est que des petites informations d'abonnement et c'est généré en temps réel. Donc, il n'y a pas d'espace serveur extrêmement important relié à ce service-là. Il n'y a pas non plus de puissance au niveau des serveurs qui est très sollicité. Ça prend presque rien, ce n'est que de l'information texte qui est générée dynamiquement. L'autre chose aussi, c'est que Google Reader génère beaucoup de trafic, étant donné que les gens sont abonnés à ces informations-là. Lorsqu'une information qui les intéresse, ils cliquent, mais ils cliquent beaucoup. Et on parle là, de plus de 10 fois plus de trafic amené par Google Reader que par Google Plus. On parle beaucoup de Google Plus, que c'est un beau réseau social, tout ça, tout à fait d'accord. Mais ce qui drive le trafic en ce moment, même s'il y a un léger déclin dans l'utilisation, c'est vraiment Google Reader. Et pourquoi Google veut tuer Reader? Ben, c'est pour favoriser Google+. Déjà, en 2011, ils avaient retiré la fonction de partage à l'intérieur de Google Reader. Ça, c'est extrêmement rare que Google enlève des choses que tu es capable de faire. D'habitude, c'est le contraire. Ils en ajoutent parfois un petit peu trop, mais on ajoute toujours des fonctions. Là, ils veulent tellement poussé Google Plus qu'ils ont commencé à retirer des fonctions tranquillement de Google Reader. Malgré tout, les gens s'en servent pareil. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire pour être sûr de favoriser encore plus Google Plus? C'est de carrément tuer Reader. C'est sûr que Google Plus est un beau réseau, mais c'est un réseau avec beaucoup d'inscrits, mais qui a une activité qui demeure quand même assez marginale versus le nombre officiel d'utilisateurs. Puis là, avec toutes les tentatives plus ou moins fructueuses dans ces réseaux sociaux, Google devrait, selon moi, avoir compris qu'on peut mettre des services à la disposition des gens en planifiant une certaine utilisation, mais on ne peut jamais imposer quel type d'usage les gens en feront. Qu'est-ce que je vais faire avec mes fils RSS? Bien, on peut exporter ces fils RSS, donc à la place d'avoir à copier manuellement un par un chacun des abonnements, on peut les exporter. On peut les ouvrir dans NetNewsWire, ce que je vais faire, c'est sûr. Parce que pour moi, c'est encore pertinent en 2013 de pouvoir consulter une foule de contenus rapidement en scannant les titres pour lire seulement les contenus qui nous intéressent. En ce moment, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une tendance dans les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un retour du balancier. Pendant longtemps, et c'était surtout chez Twitter, l'utilisation qu'on en faisait, c'est qu'on servait des réseaux sociaux comme agrégateurs de contenu. Les gens que l'on suivait devenaient ceux qui nous fournissaient le contenu et à travers ça, bien, on cliquait. Et on suivait des gens selon les intérêts qu'on avait en commun. Sauf qu'on se rend compte que la quantité de bruit dernièrement est immense par rapport à la qualité des informations qu'on y trouve. Avant, le filtre se faisait en choisissant certaines personnes qu'on décidait de suivre. En ce moment, il faut toujours filtrer de plus en plus et ça devient impossible parce que là, maintenant, il y a tellement de bruit. Donc, pour moi, la meilleure façon de trouver du contenu, encore en 2013, c'est de filtrer à la source. Et c'est ce qu'on fait quand on s'abonne à un fil RSS, on choisit la source et on réduit le bruit dès le départ. Et je pense que c'est ce que je vais faire de plus en plus dans les prochaines semaines, c'est-à-dire revenir à la base, revenir à ces abonnements-là. Pas que je vais délaisser plus les réseaux sociaux, j'ai déjà quand même un peu délaissé par le passé, mais je vais continuer à filtrer. Parce que ce qui prime pour moi, c'est l'information, c'est la qualité du contenu. Et c'est ce qu'un agrégateur me permet de faire. C'est aussi ce que une application de podcasting me permet de faire, c'est-à-dire choisir mon contenu pour n'avoir seulement que du contenu de qualité. Si vous avez des commentaires, faites-le à québecbalado@commercial.gmail.com. Mon nom est Sylvain Grandmaison et puis je vous laisse cette fois-ci avec la chanson que Paul McCartney et Dave Grohl et les gars de Nirvana ont fait au mois de février, je crois, pour aider pour les gens qui ont été touchés par l'ouragan Sandy. Donc, la chanson s'appelle « Cut Me Some Slack ». Ça, c'est la version qui n'est pas live, mais la version studio qui a été faite sur la console de Sound City. Je vous laisse avec ça et je vous dis à très bientôt.